Je suis très heureux de participer à cette table ronde sur Nicéphore Blémidès, présentée, traduite et commentée par Michel Stavrou, et plus particulièrement heureux qu'il me soit donné, dévolu, de parler des syllogismes hypothétiques et donc de mettre en relief la notion développée par Nicéphore du repos de l'esprit sur le Fils. Heureux de cela, non seulement en raison de l'originalité et de la richesse de ce thème du repos de l'esprit sur le Fils, mais parce que ce thème fut une découverte pour moi il y a plus de 30 ans, inspiré par un grand spirituel roumain contemporain, le père Bénédicte Ghiouche, qui avait fait ses études, à Strasbourg, et qui avait mis en relief ce thème, à tel point que rassemblant mes propres études sur la théologie trinitaire, j'en ai fait une thèse de doctorat sur travaux intitulée « Le repos de l'esprit dans le Christ ». J'ai 6 points à développer. Ça, c'est le premier. Certes, à l'époque, j'ignorais tout de Nicéphore Blémidès, et le mérite de Michel Stavrou est certainement de le faire découvrir, connaître et, je dirais, aussi aimer. Allons au fait du sujet. Point 2. L'intérêt de Nicéphore Blémidès est que, tout en argumentant de la procession du Saint-Esprit du Père seul, et là, il n'y a aucune ambiguïté, Nicéphore Blémidès ne s'enferme pas dans une conception durcissante et rationalisante qui fut celle souvent de l'apologétique orthodoxe scolaire après Photius, et je dirais jusqu'à nos jours. Ainsi, pour Photius, le repos de l'esprit ou son onction sur le Fils ne peut, pour Photius, je dis bien, ne pouvait concerner que sa nature humaine, donc le temps de l'incarnation. Sans mettre en cause la doctrine photienne, Nicéphore Blémidès approfondit la relation de l'esprit au Fils, non seulement dans le temps de l'incarnation, mais dans le domaine des relations trinitaires éternelles. C'est dans les syllogismes hypothétiques et dans un court traité également intitulé « Sur la théologie » que nous trouvons ce thème du repos de l'esprit sur le Fils. Et je me permets ici de lire le paragraphe 7, une partie du paragraphe 7 du chapitre 7, des syllogismes hypothétiques. Le Fils est dit posséder aussi l'Esprit Saint, et il le possède en vérité, mais il le possède non pas d'auprès de lui-même, mais du Père seul, le Père qui est le seul, monarchie du Père, seule origine. L'Esprit n'étant pas co-engendré avec le Fils, d'auprès du Père, mais l'Esprit procédant du Père seul, selon un mode propre, et demeurant toujours dans le Fils. Keai menon en afto. C'est ce que dit le Seigneur, il procède du Père, Jean 15, montrant que c'est d'auprès du Père qu'il le possède. Il n'est pas comme lui engendré, mais selon un mode propre et par procession, il possède lui aussi l'existence d'auprès du Père, et il demeure l'Esprit dans le Fils de nouveau. Ke menon meni en afto, en io, en toio. Telle est la procession du Saint-Esprit. C'est l'existence de l'Esprit d'auprès du Père seul en vue du Fils. L'existence de l'Esprit d'auprès du Père seul, mono, photius, mais en vue du Fils. Aussi, nul fidèle ne peut dire que le Fils possède l'Esprit Saint d'auprès de lui-même et du Père, mais d'auprès du Père seul, à partir duquel seulement il est engendré, etc. Nous retrouvons ainsi, point 3, pour la première fois, ce thème du repos de l'esprit sur le Fils chez saint Jean Damascène. J'ai dit pour la première fois, je n'en suis pas tout à fait sûr. Exposé précis, dans son exposé précis de la foi orthodoxe, au chapitre 7 sur le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, dit-il, vient du Père et repose dans le Verbe, étant son Ekphantikos, moi je traduirais étant sa manifestation, Michel, je pense, n'est-ce pas? Il ne faut ni le séparer de Dieu en qui il est, ni le séparer du Verbe qu'il accompagne. Alors là, je souligne très fortement l'importance du terme accompagner. Et donc, il y a un accompagnement qui implique une simultanéité, une cohérence, n'est-ce pas, des deux mouvements de procession. Le Verbe n'a jamais manqué au Père, ni l'Esprit n'a jamais manqué au Verbe. Alors, dans ma scène. Donc, repos de l'esprit, accompagnement, inséparabilité. Là, nous avons déjà les racines fondamentales. Peut-être penserais-je, je me permettrais de penser, à des racines implicites, des racines sémitiques de la pneumatologie, n'est-ce pas, avec une insistance et une dimension très fortement appuyée de la place de l'Esprit-Saint, que nous retrouvons d'ailleurs en particulier chez saint Basile. Non pas pour dire qu'il fut sémite. De même, nous avons aussi entendu l'hymne des Verbes de la Pentecôte, dû à la plume de l'empereur Léon VI, « Saint immortel, Esprit consolateur qui procède du Père et qui repose dans le Fils. » De nouveau, le thème du repos. Point 4. Ainsi, ce thème du repos de l'Esprit sur ou dans, nous trouvons les deux prépositions, sur ou dans le Fils de toute éternité, met en relief l'impossibilité de dissocier la génération de la procession. Et cela à la fois dans le lien intime, dans le lieu intime du Fils et de l'Esprit, mais aussi soulignant la simultanéité et l'accompagnement des deux processions, des deux mouvements éternels, la génération du Fils et la procession de l'Esprit. Nicéphore Blémidès reprend un terme cher à saint Grégoire de Nice, celui de l'accompagnement, simparomartum, je crois bien, du Fils par l'Esprit. Nous en arrivons ainsi à une conclusion fondamentale et féconde que, sans employer le terme, Nicéphore applique appelle plutôt à la réflexion sur le mystère trinitaire, applique plutôt une approche ternaire. Je distingue l'approche ternaire à l'approche binaire qui est celle de nos ordinateurs ou de notre rationalité. En veillant à ne jamais poser la relation réciproque de deux hypostases divines en ignorant la troisième. Le Père-Fils, on ne peut pas parler de la génération en faisant abstraction à un seul instant de l'Esprit-Saint. On ne peut pas parler de la relation du Fils à l'Esprit sans parler immédiatement de leur commune origine. On ne peut pas parler de la relation de l'Esprit au Père sans parler immédiatement du lien avec le Fils. Cela est développé dans le repos de l'Esprit, sera se développer, nous verrons ça l'année prochaine, Michel, dans la notion du, si Dieu veut, dans la notion de la procession de l'Esprit-Saint par le Fils. Je ne m'y arrête pas parce que ce n'est pas mon sujet. Point 5. L'Esprit-Saint repose donc sur le Fils. Je louterai donc qu'il n'est pas absent de la génération du Fils, sans basculer dans le filioque. Il repose sur lui et le manifeste de toute éternité. C'est l'intuition du successeur d'Nicéphore Blémidès que fut Grégoire de Chypre, qui développera le thème de la manifestation éternelle du Fils par l'Esprit. Pardon ?
Qu'est-ce que ça veut dire, n'est pas absent ?
Quoi n'est pas absent ?
Le Fils n'est pas absent de la génération.
Mais il est là. Il est là, il est présent.
Il est dans le Père.
Il est dans le Père, et il est dans le Fils. On ne peut pas faire abstraction de lui, on ne peut pas oublier le Fils quand on parle de la procession de l'Esprit, on ne peut pas oublier l'Esprit quand on parle de la génération du Fils. Mais à son tour, donc, parler d'une non-absence du Fils dans la procession de l'Esprit ou de l'Esprit dans la génération du Fils souligne que par la négation même, non-absence, le caractère apophatique, je dirais, des relations trinitaires et que nous avons trop tendance à exprimer et à rationaliser positivement. Et je voudrais à ce sujet lire un extrait de la lettre à Théodore, page 315. L'Esprit est ton propre Fils. On devrait aussi bien dire que le Fils est propre à l'Esprit. Le Fils envoie l'Esprit, et en tant que Dieu, il devrait en retour être envoyé de la part de l'Esprit. Ce que dit l'Esprit, c'est tout ce qu'il peut entendre auprès du Fils. Et ce que devrait dire le Fils est tout ce qu'il entendrait d'auprès de l'Esprit. C'est du Fils que l'Esprit reçoit. Aussi bien le Fils devrait-il recevoir de l'Esprit. Par le Fils, l'Esprit est uni au Père. nous avons déjà le diaïou. Aussi bien le Fils devrait-il par l'esprit, aussi bien le Fils devrait-il par l'esprit être uni à son propre Père. Ça, c'est un peu, ça me fait penser à une pensée développée par Paul Evdokimov qui soulignait la le Père juxtaposait au Père filium le Père spiritum, que chacune des personnes est présente dans la génération, dans la procession de l'autre. J'espère que je suis assez clair. Pour conclure, il me semble important de souligner ce lien entre le lieu de l'esprit en Jésus, exprimé par la notion de repos ou d'onction, qui constitue un des éléments fondamentaux de ce qu'on appelle aujourd'hui la christologie pneumatique, et d'autre part, le plan des relations éternelles. Certes, il faut se garder de conclusions hâtives, en particulier d'appliquer la notion d'onction de l'esprit au Fils éternel en tant que Dieu. Pourtant, et j'ai encore découvert ça il y a peut-être moins d'une heure, nous avons dans le mémoire de 1234, à la page 189, un certain regret, peut-être, page 189, Michel, un certain regret. Bien sûr, dit-il, l'esprit est-il prééternel, tandis que l'onction est récente. Donc ça, c'est l'affirmation courante. On ne peut pas appliquer l'onction à la vie, aux relations éternelles. Admettons cependant que pour vous être agréable, que l'esprit soit ainsi nommé l'esprit du Christ depuis l'éternité. Toutefois, même s'il est appelé ainsi, il peut être appelé roi prééternel, même si des sujets ne se sont pas encore présentés, créateur prééternel, même si les créatures ne sont pas encore venues à l'être, bienfaiteur, même si ceux qui jouissent des bienfaits n'existent pas encore. De cette manière, il pourrait être appelé esprit du Christ, impliquant l'onction, de façon prééternelle, en raison du dessein ancien et prééternel de l'économie de l'incarnation, en vertu de laquelle Emmanuel a été oint par l'Esprit. Donc ne cassons pas, ne mettons pas une frontière absolument irréfragable entre l'onction, bien sûr qui est l'onction du Fils, du Dieu homme dans son humanité, et je dirais le mystère du repos ou de la demeure éternelle et plénière de l'Esprit en Christ. Ce thème du repos, donc, ou de l'habitation de l'Esprit, suggère en réalité une telle plénitude et une telle stabilité au-delà de tout élan ou action. Maintenant, aux enfants de Dieu, je pense ici en particulier à Grégoire de Nice, qui donne une place importante à l'onction, en particulier dans ses homélies sur la Cantique des Cantiques. Et nous trouvons aussi chez lui ce thème de l'élan infini, de l'expectase, n'est-ce pas ? Ou n'est-ce pas ? Nous allons de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin. Mais aussi nous trouvons, par exemple, dans les homélies spirituelles attribuées à Saint Macaire, l'Égyptien, Macaire le Grand, nous trouvons au contraire la notion de stabilité, de repos, de présence, de croissance, non seulement de commencement en commencement, mais aussi de croissance, de plénitude en plénitude, remplissant à ras-bord nos vases terrestres, mais aussi en les élargissant à l'infini. Ceci pour dire combien le thème de Nicéphore Blémidès, du repos de l'esprit, est importante, non seulement en théologie trinitaire, mais non moins dans l'économie trinitaire du salut et de la vie éternelle à laquelle nous sommes conviés. Je vous remercie.